Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La rentrée est maintenant derrière, la première quinzaine de septembre passée. Chacun relève un peu la tête et reprend souffle, l'occasion d'aller au cinéma. Trois films à l'affiche de votre émission Vivante Église, spéciale cinéma. Joseph de Aurel, dessin animé sur la fameuse Retirada, cet exode dans les Pyrénées de près de 500 000 Espagnols, film sur l'amitié, sur la force de la vie, baiser volé de François Truffaut, pas tant pour Antoine Doinel, héros de ce film, archétype de l'amoureux romantique, que pour Michael Lonsdale, acteur immense, décédé il y a peu. Et enfin, le décalogue de Christophe Keselowski, film au succès mondial, chef-d'œuvre spirituel du mois, sur un thème difficile, s'il en est. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma. J'allais dire on reprend les bonnes habitudes, on avait déjà eu une émission. La bonne habitude en tout cas, ce sont que nos deux chroniqueurs, je rappelle, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Soler, qui est producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de cette antenne, mercredi 19h, reprennent leurs bonnes habitudes. Ce ciné-débat, ciné-parole à l'ABC, ce cinéma d'art et d'essai, à Toulouse, et c'est donc mardi prochain, deux séances, 14h30 et 20h30, mardi prochain, deux séances, et donc pour ce film à l'affiche, Joseph de Aurel, on va tout de suite écouter la bande-annonce.
Ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés.
Régalez-vous!
Il y avait bien quelques gestes.
Tenez, c'est pour vous.
Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi?
Sí. La meva promesa.
Allez, bougez-vous les fesses!
No passaran!
Tiens, saloperie d'espagnol de merde! Tiens!
Et après?
Oh, après.
Pues las madres del mundo. Tengan su bien y tiemblan todas las madres del mundo.
Hola, Josep.
Esconden su bien y tiemblan y quisieran retirar.
Yo volvería para escupir en la tumba de Franco.
Voilà, Joseph, donc de Aurel, film à l'affiche, et donc le ciné-débat, ce fameux ciné-parole, ciné-club, donc, que vous animez tous les deux, c'est donc mardi, non pas prochain, mais en 8. Voilà, je m'y perds parce qu'on devait se retrouver la semaine prochaine, et on a changé notre programmation. Et puis c'est la fin de la semaine. Avant de se plonger dans l'histoire qu'on a probablement en partie entrevue, on va faire un petit détour et on va parler du dessin de ce film. Allez, on change. Paul Dima, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce dessin?
Alors, c'est pas un film de dessin animé.
Oui, c'est quoi?
C'est un film avec des dessins...
Qui sont animés.
Qui sont animés, mais pas comme les animations classiques de films de dessin animé. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas reproduit dans son intégralité, c'est parfois saccadé, c'est parfois défondu. C'est des dessins qui sont mis, par le montage, en film. C'est très intéressant parce que ça crée un rapport tout à fait nouveau et très subtil, très profond en même temps, à l'histoire qui est racontée. Alors... On peut dire que c'est un film fait par un dessinateur de presse. Aurel est dessinateur de presse au Monde et au Canard Enchaîné, sur un dessinateur qui était lui-même dessinateur de presse, le héros du film, on y reviendra, ce fameux Joseph. Et Aurel a découvert les dessins de cet homme espagnol, républicain. On ne va pas parler de la retirada dans le détail tout de suite, mais il a fait partie de ce groupe-là. Il a fait des croquis pendant son internement. Et grâce à son neveu, Aurel a découvert l'existence de ces dessins et il a mêlé d'autres dessins aux dessins originaux. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit des dessins réalisés à différentes étapes qui sont une relecture et un approfondissement d'une histoire vécue à travers une histoire qui est en partie réinventée aussi, mais très fidèle à la réalité.
Voilà, sorte de double mise en abîme presque. Hein.
Tout à fait.
La Croix, un long métrage animé émouvant et singulier qui fait œuvre de mémoire tout en rendant hommage à l'art graphique. Le Journal du Dimanche, un film à l'esthétique superbe sur la transmission, le courage et l'amitié. Et je vous ferai grâce de la critique du Monde, du coup, peut-être. Critique du Monde qui est aussi très bonne. Louis-Marie Solaire, Aurel, c'est donc un dessinateur de presse. C'est son premier film ?
C'est son premier film, oui. Jusqu'à présent, il s'est consacré à son métier de dessinateur de presse. Et comme l'a souligné Paul, il voulait faire un film sur Joseph Bartoli à partir du moment où il a découvert ses dessins. Un peu ce que va décrire le personnage qui raconte l'histoire quand on y viendra dans le fond. Et en tout cas, dans la forme, il n'y a rien à redire sur la qualité de ce qui fait, de ce qui montre, de ses choix artistiques. C'est un geste artistique d'une beauté renversante, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est extraordinaire. Il dit lui-même que son film n'est pas un film d'animation, c'est un film dessiné. Comme l'a souligné Paul, effectivement.
Mais Paul avait l'air de dire que c'est assez nouveau.
C'est nouveau.
J'ai souvenir d'un film sur l'Afghanistan là, qu'on avait chroniqué ensemble.
Les
Cervelins de Kaboul, non ?
Les Hirondelles de Kaboul.
Les Hirondelles de Kaboul est plus traditionnel dans le film d'animation, avec les dessins qui sont, par contre, eux, on en avait parlé, très ressemblants par rapport aux acteurs qui prêtaient leur voix dans le film. Là, le parti pris, c'est de mêler les dessins originaux de Bartoli avec ceux d'Aurel, ceux du film. Ce qui fait qu'il a choisi non pas une animation classique, où on voit bien les personnages avancer, marcher, bouger les bras, mais comme l'a dit Paul, à certains moments, c'est une animation saccadée avec peu d'images, mais on voit par exemple un couple qui s'éloigne par intermittence, on voit des mouvements, ce qui n'empêche pas Aurel à certains moments de procéder à quelque chose de plus classique.
On va écouter un autre extrait qui va nous aider à nous plonger un peu plus dans l'histoire de ce film.
T'as entendu parler de cette époque ? 1939. Ça te dit quelque chose ?
Évidemment. C'est le début de la 2GM.
Elle quoi ?
Deuxième guerre mondiale ?
Mais non ! La France est entrée en guerre en septembre. Moi, je te parle de février 39. Quand Barcelone tombe, 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Hostia. La marque de Babari. On les parque dans des camps de concentration. Tu crois qu'ils méritaient ça? Pas de docteur, pas d'eau potable. La gale, le scorbut, le typhus. Et la famine. C'est terrible d'avoir faim.
Pour vous. Vite, prenez, s'il vous plaît.
Non ti sei andata a promesa?
Et promesa?
Una madrileña.
Tanto puede ser perfecta.
Voilà pour cet extrait. On va finir de préciser l'histoire. Février 1939. Submergé par le flot des républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Donc deux hommes séparés par les barbelés, l'un est gendarme et l'autre est un prisonnier. Ça va être l'histoire de l'amitié entre ces deux hommes. Qu'est-ce que vous rajouteriez, Louis-Marie ?
Ben, ce qui est intéressant, c'est le parti pris, on le disait, le parti pris artistique d'Aurel. Et là, le parti pris, quand je disais artistique, l'ensemble est artistique, mais je veux dire parti pris artistique graphique. Et là, le parti pris pour le choix de la façon de raconter l'histoire. C'est un vieil homme, on l'a compris en écoutant l'extrait, qui est sur son lit de douleur. Probablement sur son lit de mort. C'est un grand-père qui a beaucoup vécu et dont le petit-fils est obligé d'être à ses côtés. Quoi. Sa mère l'a laissé, elle a des courses à faire et il est là. Et il ne sait pas trop, quand le grand-père bouge, s'il délire ou s'il lui parle. Et non, là, en fait, il lui parle. Et ce qui est très beau, et ce qu'on comprendra au fur et à mesure où on découvrira l'histoire, c'est qu'en utilisant ce procédé, il montre combien il est important de le continuer et de transmettre ces histoires, ou cette histoire en particulier, qui a justement beaucoup marqué ce grand-père, qui en fait, on le comprendra, mais on le comprend tout de suite, est le fameux gendarme qui va aider Bartoli, qui va être entre deux... Qui va se placer, passez-moi l'expression, il a le cul entre deux chaises, parce qu'il est jeune gendarme, il ne veut pas se mettre les autres gendarmes et ses supérieurs à dos, donc il fait le salaud comme les autres le font avec les réfugiés, en les traitant comme des moins que rien. Et puis en douce, il leur donne des trucs, parce que...
Dont un carnet de dessin.
Un carnet de dessin pour Bartoli, mais pas que, il leur donne un peu à manger, il leur donne un peu à boire. Ce qui est aussi très beau dans le film, c'est la place, il y a des tirailleurs sénégalais. Et ça, c'est très important de voir comment une grande puissance, comme était la France à cette époque-là, et ses colonies, et comment elle utilisait justement ces soldats qui venaient des colonies, en particulier donc ces tirailleurs sénégalais.
Alors, pourquoi c'est un beau film ? J'imagine que si vous l'avez choisi pour ce film à l'affiche, ce n'est pas complètement par hasard. Paul, qu'est-ce qui vous a plu et parlé dans ce film ?
Parce que c'est une histoire très forte et très très bien montrée. C'est pas simplement une recherche esthétique quand elle a des qualités graphiques, etc. C'est Aurel sait que à côté des paroles, des récits, les images, parce que c'est son métier à lui de faire de l'image de presse, a la capacité. On ne prend pas l'image pour la réalité parce qu'il y a un contour et des personnages avec un contour, ça n'existe pas, sauf dans les dessins. Eh bien. Cette approche de la réalité distanciée permet d'aller très en profondeur sur ce qui est montré. C'est-à-dire qu'on n'est pas, par exemple, des gestes, des détails, des actions aussi, qui prennent tout de suite une valeur symbolique forte, au sens porteuse d'un sens qui dépasse complètement le petit croquis qui est fait. Et ça, c'est la force du dessin et de la parole. Alors, il y a aussi, Louis-Marie l'évoquait, le lien entre les acteurs qui sont requis pour faire les dialogues des différents personnages. Et on voit bien qu'entre les dessins et les paroles, c'est ce qui se passe quand on voit un film de dessin animé sur des personnages qu'on a lus. On dit, oh non, mais il ne parle pas comme ça, c'est pas lui. Et bien là, on est aussi un peu surpris d'entendre une voix sur... une représentation comme ça. Et ça donne une très grande force humaine, psychologique, et c'est très très finement fait.
Marie, vous voudriez ajouter quelque chose ? Pourquoi c'est un beau film ? J'ai souvenir de la chronique que vous avez fait, je crois, cette semaine.
C'était mercredi dernier.
Mercredi matin, vous étiez dithyrambique.
Je suis dithyrambique, et effectivement...
Vous êtes souvent enthousiaste, mais pas toujours dithyrambique.
Oui, c'est vrai, j'ai un cœur gros comme ça. Certains disent même qu'il ressemble à la salle des pas perdus d'une des plus grandes gares de France, la gare du Nord. En fait, ce qui est beau, oui, c'est ce que disait à l'instant Paul, c'est cette façon de raconter cet épisode dramatique de l'histoire de France et de l'histoire de l'Espagne, qui, pour nous, en tout cas, pour cette région, le Grand
Sud-Ouest... Moi, j'avoue que j'ai découvert cette page d'histoire en arrivant dans le sud-ouest.
L'Occitanie.
Preuve qu'il faut en parler.
L'Occitanie, c'est quelque chose qui touche au plus haut point parce que les camps dont on parle, ils n'étaient pas loin d'ici. Ils étaient à Argelès. Hein, c'était Argelès sur mer. Ils étaient sur les plages. Même on a prétendu à une époque que les républicains avaient fui avec un trésor et qu'ils seraient cachés par là-bas. Alors il y a des gens de temps en temps. Ne soyez pas surpris de voir avec des détecteurs de métaux. On cherche encore l'or des Espagnols, des républicains. Mais peu importe. Mais c'est très important de parler de ça. Il y a quelque chose de fort dans cette relation entre l'Espagne et la France. D'ailleurs, la France, et en particulier le Sud-Ouest, pour mémoire, c'est pas la Retirada dont il parle dans sa chanson, mais il parle de l'Espagne. Nougaro, dans Toulouse, est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne ? Donc, voilà, nous, on est quand même très près d'eux, et ça, c'est très... très fort, c'est pour ça que ça nous prend là. Pourquoi ce film nous prend ici, là, au cœur, à la poitrine ?
Joseph de Aurel, c'est donc le film à l'affiche, à voir entre autres, donc deux séances avec vous pour ce ciné-parole à l'ABC, ce cinéma d'art et d'essai donc à Toulouse, c'est mardi 13 octobre et non pas mardi prochain, 14h30, 20h30. Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma, avec nos deux messieurs cinéma, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs et Centre Jésus dans le Sud-Ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence. N'oubliez pas l'ouvreuse. Deuxième film choisi, Baiser volé de François Truffaut, sorti en 1968. On n'a pas de bande-annonce, alors d'une certaine manière, allez, vous allez nous faire l'article Louis-Marie Solaire, et puis surtout, vous allez nous dire pourquoi on l'a choisi. Je vais vous aider. On l'a choisi parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une manière de rendre hommage à Michael Lonsdale, mais qu'on avait déjà parlé à cette antenne de deux de ses films les plus connus, que sont Le Nom de la Rose et Des Hommes et des Dieux. Et puis, vous avez voulu mettre en perspective la carrière de Michael Lonsdale, pour les plus jeunes d'entre nous, un homme qui n'a pas commencé sa carrière avec Des Hommes et des Dieux, mais qui l'a fini.
Ah oui, exactement. C'est une carrière extraordinaire qu'a eu Michael Lonsdale. Lonsdale, parce que son père était britannique. Et Michael aussi, d'ailleurs, les deux. Et il a tout fait. Il a fait du cinéma, plus de 200 films. Il a fait du théâtre, un nombre assez considérable de pièces. Il a fait de la télévision. Il a écrit, parce qu'il est auteur, il a écrit plus d'une dizaine d'ouvrages. En fait, c'est un homme qui était...
Il a peint
aussi.
Il était peintre aussi.
Qui a tout fait et qui l'a fait avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Et pourtant, il avait de quoi bomber le torse, parce que, ne serait-ce que quand on parle que de l'acteur, ce dont nous allons parler aujourd'hui, ben on peut dire qu'une chose, c'est que quand il jouait la comédie, il jouait la comédie. C'était un vrai et un grand interprète.
Alors là, on a choisi Baiser volé. Allez, Paul, vous nous l'introduisez, à défaut de bande-annonce, film de François Truffaut. On va écouter un extrait après, je vais vous aider un petit peu. Le personnage principal, Antoine Doinel, qui tombe amoureux de Christine Darbon. Christine Darbon, qui est l'épouse dans le film de... Non, je me trompe. Hein. Antoine Doinel, en tout cas...
Il tombe amoureux de Christine Darbon, qui est Claude Jade, une jeune femme de son âge.
Oui. Voilà.
24 ans.
Allez, voilà. Allez-y, puisque je m'en mêle les pinceaux.
Alors, c'est la suite, et François Truffaut d'ailleurs va continuer, une saga sur Antoine Doinel, qu'on a vu d'abord dans Les 400 coups. Il avait 12 ans.
Oui, c'était 13 un petit gamin.
Il était à l'école. Et là, on retrouve cet Antoine Doinel, 10 ans plus tard. Il a 24 ans. Il vient de se faire réformer après s'être bêtement engagé dans l'armée qui ne lui convenait pas du tout. C'est pour ça que je dis bêtement, parce qu'il a fait ça, on ne sait pas trop pourquoi. Il se fait réformer et il doit trouver plein de petits boulots. Mais à l'époque, il suffit d'en parler pour en trouver.
Oui.
Et il a fait, c'était en 68, il se retrouve après avoir été...
Gardien de nuit,
réparateur de télé.
Oui. Il a même précédé disques.
Oui, il a précédé disques
et les a vendus chez Philips.
Et là, il se retrouve embauché dans une agence de
détective privé.
Et là arrive Michael Lonsdale.
On écoutera l'extrait tout à l'heure. Oui.
Qui est bien installé, propriétaire d'une boutique de chaussures.
Monsieur Tabar, donc.
Monsieur Tabar, qui est florissante et qui vient voir l'agence de détective. Et il demande qu'une enquête soit faite autour de lui parce que personne ne l'aime.
Ouais, il se demande pourquoi personne ne l'aime.
Et il ne sait pas pourquoi.
Étrange.
Et alors, le responsable de l'agence...
On va écouter l'extrait. Donc
dialogue avec lui, ce que voilà.
C'est Michael Lonsdale, et donc c'est Monsieur Tabar qui arrive dans cette agence.
Vous êtes un homme heureux, un homme sans soucis, sans ennemis. Sans ennemis, ça c'est beaucoup dire. Depuis ma plus tendre enfance, enfin même au collège, à l'armée, j'ai toujours été très jalousé. Enfin, ça m'a pas empêché de dormir. Et puis, j'ai un défaut très grave. La franchise. En effet, on peut faire beaucoup de mal avec ça. Mais je comprends pas très bien le but de votre visite. Qu'attendez-vous de moi, au juste? Eh bien voilà, personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi.
Oui, je sais ce que vous allez me répondre, n'est-ce pas?
Pourquoi est-ce que je veux pas voir un psychanalyste?
Alors c'est pas l'argent que ça me coûterait, ça j'ai des moyens, croyez-moi. Mais je ne veux pas perdre mon temps à raconter ma vie sur un canapé.
Non, je suis pas une femme lettre, n'est-ce pas? Et mon magasin me prend trop.
On est bottier 24 heures sur 24, ou alors on n'a qu'à faire autre chose, mon âge.
Oui, enfin, si vous pensez que tout le monde vous déteste, c'est peut-être que vous avez montré du mépris à l'égard de tel ou tel.
Ah non, absolument pas. Non, je méprise personne. Vous savez, tout le monde peut venir.
Se faire chausser chez Tabar.
Je chausse aussi bien les juives que les femmes arabes. Et même les Shintoks, le jour où elles viendront. À condition qu'elles veuillent bien porter des talons hauts. Mais c'est pas demain la veille. Non, je sens que je suis détesté. Et je ne sais pas par qui. Je ne sais pas par qui. Je sens que c'est dans l'air quand je sors en public, au restaurant, au cinéma, ou à Instagram quand je vois la boxe. Je ne sais pas si ma concierge me déteste, mais enfin, quand je lui parle, elle hausse les épaules. Et ma femme rit tout le temps, sauf quand je raconte quelque chose de drôle. Et puis alors, surtout les vendeuses. Oui, c'est ça le plus grave, n'est-ce pas? Chaque fois que je leur fais une réflexion sur quelque chose, de leur travail, eh bien, elles me répondent. Elles raisonnent, elles font les raisonneuses.
Alors, cet extrait, pour ceux qui nous rejoindraient, on parle donc de Baiser volé, film de François Truffaut, et c'est donc Monsieur Tabar, joué donc par Michael Lonsdale, qui va chez le détective et qui explique pourquoi.
Pourquoi il demande une enquête. Alors, c'est évidemment presque surréaliste comme dialogue, parce que le pauvre directeur d'agence a jamais vu ça, et Michael Lonsdale prend les devants, enfin, Monsieur Tabar dit « Oui, je sais ce que vous allez me répondre, mais moi, je ne veux pas m'étaler sur un... Voilà. » sur un divan pour raconter ma vie. Il veut savoir pourquoi on ne l'aime pas. Et alors, le directeur d'agence, après avoir hésité, va nommer Antoine Douanel, qu'il va embaucher pour aller mener l'enquête au sein du magasin.
Alors, on racontera après l'intrigue amoureuse. Mais sur cette scène...
Sur cette scène, alors, il faut savoir que pour ce film-là, François Truffaut était très préoccupé par l'avenir de la Cinémathèque et de défendre en particulier son directeur qui était menacé par le ministre de la culture de l'époque.
La Cinémathèque française.
André Malraux.
La Cinémathèque
André
française, Malraux. C'était quoi juste à l'époque pour ceux qui ne savent pas?
C'était quelque chose de très important. C'était le... Alors je ne retrouve pas
C'est pas grave, pas on laisse, notes, on continue. Mais, Paul Dima continue. Bref, il était préoccupé, allez-y.
Et donc, il laissait un peu carte blanche à ses comédiens. Et par exemple, cette scène est improvisée. C'est-à-dire que... Et les mouvements de surprise du responsable de l'agence se comprennent parce qu'il découvre en même temps que l'auditeur ou le spectateur le discours de M. Tabar qui est... vraiment insolite dans un lieu comme ça. Il n'a jamais vu quelqu'un qui venait parce que personne ne l'aimait.
Insupportablement infatué, quand même.
Ah oui, oui.
Supplément. Oui, alors, mea culpa, mea maxima culpa, le directeur de la Cinémathèque française était Henri Langlois. Et le ministre de la culture était bien André Malraux.
Alors, c'est un film, si on revient au film donc, de François Truffaut, inspiré d'un roman, Le Lys dans la vallée, de Balzac. Et Antoine Douanel vit l'intrigue de ce film. C'est un film sur, qu'est-ce qu'on peut dire, sur le romantisme, c'est ça?
Oui, sur le romantisme, sur la quête amoureuse, sur l'indécision, sur...
Antoine Douanel a donc, entre guillemets, une chérie, Christine Darvon, oui. Mais là, il tombe amoureux de Madame Tabar.
Ah, il est subjugué par Madame Tabar.
Faut dire qu'elle est sublime.
Ah oui.
Elle est c'est les deux grands personnages féminins du film que sont la jeune Christine et Fabienne, la femme de l'insupportable chausseur, sont incarnées l'une par Claude Jade, qui est magnifique de fraîcheur quand elle se remet et se recoiffe devant la glace, c'est extraordinaire. Et puis Fabienne Tabar, c'est la grande Delphine Seyrig qui est une femme. C'est évidemment, il ne peut être que subjugué, ce pauvre Antoine Douanel.
Une apparition. Alors donc, il est envoyé en mission donc pour observation et essayer de résoudre le problème de Monsieur Tabar qu'on a entendu précédemment. Et Madame Tabar, quand il arrive un soir dans le magasin, est en train d'essayer des nouvelles chaussures et il tombe sous le charme.
Ça vous ennuie de me rapporter ça à l'appartement? Vous me montez maintenant? Bon, je file. Bonsoir, Antoine. Vous savez comment on ferme. Vous travaillez bien tard.
Mmh.
Allô, Ida ?
Salut Antoine.
Bonjour, c'est Antoine, là, sur l'affaire Cendrillon. Alors, monsieur Tabar est surnommé le dinosaure par son personnel. Ah, j'ai fait la connaissance de madame Tabar. Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable.
Donnez-moi son signalement.
C'est une femme superbe. Avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel.
Sa taille ?
Ah là, la taille est lancée.
Non, je vous demande combien elle mesure.
Oh, 1m66, sans talons.
La forme du visage ?
C'est un ovale très pur. Enfin, un ovale un peu triangulaire, mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur.
Mais Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit.
Antoine Donnel tombe donc sous le charme de Madame Tabar. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire plus largement de ce film, et puis de cette époque aussi, du cinéma de François Truffaut, Louis-Marie Soler ?
Oh, c'est, tout est là. C'est la première comédie de Truffaut. Truffaut, comme l'a dit Paul Dima, avait l'esprit ailleurs quand il a tourné ce film. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses et beaucoup de scènes qui ont été improvisées. En plus de ses difficultés, ses malheurs avec la Cinémathèque française, il en avait d'autres plus personnels, comme le décès de Françoise d'Orléac, qui s'est tuée en voiture, avec laquelle il avait une profonde relation. Hein. Il avait deux femmes avec lesquelles il était profondément lié, c'est Jeanne Moreau et Françoise d'Orléac. Jeanne Moreau venait d'être sa mariée était en noir. Hein. On ne peut pas dire que c'était un film très réjouissant qu'il avait tourné quelques temps avant Baiser volé. Donc là, malgré tout ça, il a su bâtir, composer et faire ce film, tout à la fois en laissant, on l'a dit, la bride sur le cou à ces acteurs qui, comme Michael Lonsdale qu'on a entendu tout à l'heure, ou Jean-Pierre Léo qui restera Antoine Douanel, l'acteur avec cette fraîcheur, cette façon de dire les textes et cette façon justement de rajouter cette pincée de nonchalance bienvenue. En fait, il est jeune et puis il est un petit peu Douanel, Léo, on les a tous les deux assimilés, un petit peu comme il est dans la vie. Et puis dans ce film, il y a plein de choses. On va apprendre comment beurrer des biscottes sans les casser, comment obtenir l'adresse de quelqu'un par téléphone comme si de rien n'était, quelle est la différence entre le tact et la politesse. Et puis on verra, je le disais, Claude Jade se recoiffer devant la classe, ça c'est admirable. Et puis Douanel tourner les talons face à une prostituée un peu trop exigeante, parce que il va voir un peu partout quand même.
Oui,
son éducation sentimentale passe par tous les degrés de l'amour. Hein. Il est assez extraordinaire. Et puis il y a cette façon de filmer aussi. Comment ouvre le film et le plan qu'on découvre de Paris. Et puis surtout la manière qu'a la lettre d'amour de traverser Paris en souterrain par pneumatique.
Et on voit tout le trajet et des pneumatiques. Alors, les pneumatiques, ça ne dira rien aux jeunes générations. C'était bien avant les SMS et les choses. On mettait l'enveloppe dans un cylindre qui était propulsé par air pulsé et qui allait rejoindre la destination que la Poste avait,
oui, avait préparée. Je mourrais moins bête.
Et, alors, c'est, voilà. et on ne trouvait ça qu'à Paris. Hein.
Oui, qu'à Paris.
Et parce qu'il fallait un réseau de tuyaux souterrains.
Voilà.
Paul, vous avez choisi ce film donc en partie pour parler de Michael Lonsdale. Louis-Marie en a parlé. Vous, qu'est-ce que vous en diriez de Michael Lonsdale ?
C'est un personnage surprenant. Il a dans sa carrière joué dans des genres très très différents et des rôles très différents. On évoquait tout à l'heure Des Hommes et des Dieux et Au nom de la Rose. On voit la distance, mais il a tourné avec les surréalistes, il a tourné avec la Nouvelle Vague, sans parler du théâtre. Et c'est un homme profondément spirituel et chrétien. Il n'était pas artiste chrétien.
Il a publié un livre qui s'appelle « Jésus, j'y crois ».
Oui, c'est ça.
Paru aux éditions Bayard.
Et donc, il ne se définissait pas comme artiste chrétien, mais comme chrétien artiste. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas étalage ni secret de sa foi, mais elle n'occupait pas le devant de la scène. Mais quand on lui en demandait, il pouvait en parler. Et il était très, très engagé dans la mouvance charismatique et une vie spirituelle chrétienne très, très profonde.
Allez, Baiser volé de François Truffaut, on va s'arrêter là, on aurait pu dire d'autres choses sur cet homme. Entre autres que c'est un homme qui n'a pas été épargné par les épreuves dans sa vie, ce qui hélas souvent signe, accompagne la profondeur d'une personne. Baiser volé de François Truffaut et Michael Lonsdale, donc à retrouver dans ce film et dans bien d'autres. Donc Le nom de la rôle, Des hommes et des dieux et autres. On fait une deuxième pause et on vous retrouve.
Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
Présence. Emmanuel Pella.
Le grand écran, pour rappel, émission Cinéma de Vivante Église, ce matin avec nos deux chroniqueurs, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, habitués de cette émission, donc Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs et Centres Jésuites dans le Sud-Ouest, et Louis-Marie Soler, producteur de l'émission Cinéma de Radio Présence, mercredi 19h, n'oubliez pas l'ouvreuse. Dernier film, chef-d'œuvre spirituel du mois, notre choix, Un seul Dieu tu adoreras. C'est donc un film de Krzysztof Kieślowski. Vous nous en direz plus l'un et l'autre. C'est le premier donc, de 10 films, mais plutôt de 10 téléfilms. On va écouter un début de bande-annonce qui n'est que musical, mais qui au moins va nous mettre dans l'ambiance. Thank you. Alors Louis-Marie, un petit mot sur la musique. Est-ce que la musique est à l'image du film ? C'est un peu... On a du mal à respirer là.
Oui, mais on a du mal à respirer un peu dans tous les segments du film, puisque Un seul Dieu tu adoreras est le premier segment, le premier épisode de 10, et qui rentre dans un ensemble qui s'appelle le Décalogue, comme vous l'avez dit. Alors c'est quelque chose que Kieslowski, qui est un réalisateur polonais, un des grands réalisateurs polonais, a pu réaliser grâce aux télévisions polonaises et ouest-allemandes. C'était donc une série de 10 moyens
métrages. Sorti quelle année ? J'ai pas retrouvé.
C'est à la fin des années 80. Et ce Décalogue a eu tellement de succès que deux des épisodes sont devenus des longs métrages, et qu'après, le Décalogue est sorti en salle et vu la longueur des films qui étaient... Alors on appelle ça des moyens-métrages, en fait ça n'existe pas le moyen-métrage, il y a des courts et des longs. À partir du moment où le film dépasse 60 minutes, c'est un long-métrage, s'il fait moins de 60 minutes, c'est un court-métrage. Toujours est-il que ces films-là duraient entre 54 et pas tout à fait 60 minutes. Donc le Décalogue a été diffusé en salle, on pouvait voir deux segments ensemble, c'est-à-dire les deux premiers, puis le 3 et le 4, le 5 et le 6, etc. Et donc Un seul Dieu tu adoreras est le premier. Et
l'histoire
fort. C'est pas facile à raconter. C'est en fait.
Il y a un petit garçon et une tante quand même.
Un petit garçon et une tante. Un petit garçon qui est élevé par son père, un père très rigoureux. Très rigoureux parce que très scientifique. Scientifique, il mesure tout, il calcule tout.
Spécialiste d'informatique.
Voilà. Et il y a cette tante qui est très pieuse, très croyante. Et qui s'en réfère beaucoup, et qui s'en remet, pardon, beaucoup à Dieu. Et on verra comment l'éducation de cet enfant flotte entre ces deux
parties prises, oui.
Sur les deux influences, de celle de son père et celle de sa tante, et le fait que son père l'éduque dans cette histoire de scientifique avec un esprit très cartésien finalement, et à cet enfant auquel il apprend à jouer aux échecs. D'ailleurs, il y a une partie d'échecs assez fameuse dans le film.
Alors, comment, Paul Dima, comment ce réalisateur polonais s'y prend pour traiter de ce thème si, si difficile, par évocation quelque part ou...
Beaucoup. Il y a par exemple dans ce film, et dès le début, un personnage énigmatique qui n'ouvrira jamais la bouche, qui est assis dans la neige auprès d'un lac gelé, qui va être le lieu du drame, on peut le dire dès maintenant, hein, et qui est peut-être le fatum, le destin qui est là. Et il intervient à chaque fois qu'une décision est à prendre, c'est-à-dire qu'il intervient, il est montré au montage à chaque fois qu'une décision est à prendre. Et il y a une belle complicité, une grande tendresse entre le père et le fils. Mais le père, comme le disait Louis-Marie, c'est un pragmatique scientifique athée. Et le petit garçon, un jour, voit un chien crever et au petit déjeuner, il dit à son papa, enfin il l'interroge sur la mort. Et le père répond froidement, la mort c'est l'arrêt du cœur, le cerveau n'est plus irrité, le cœur s'arrête, point. Mais ça convient pas, ça suffit pas du tout au petit garçon qui veut plus. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qui reste après? Et le père répond, y a le souvenir des gens. C'était un bon type, un sale type, il était grand, il avait une sale gueule, voilà. Donc il ne rentre pas du tout dans la métaphysique ou dans le sens humain profond.
Alors qui aide cet enfant à rentrer dans cette métaphysique ?
Eh bien c'est la tante. Parce qu'il pose la même question à sa tante qui, elle, est très, très croyante. Alors c'est dans la Pologne des années 80. Elle a une photo de Jean-Paul II, le pape adoré, enfin adulé, des Polonais catholiques. Et elle montre une photo du pape. Et le petit garçon lui parle aussi de la mort et elle tient un tout autre discours. Donc on voit, il n'est pas ballotté, mais Il peut
dire un mot, il intègre de la manière dont elle lui répond.
Alors, je citerai pas les mots
scènes,
exactement de
les
cette
scènes
tante.
Marquantes.
Mais elle est là, elle est beaucoup plus nuancée que n'est le père.
Beaucoup moins catégorique. Ouais. Par exemple, elle ne répond pas directement à qu'est-ce que la mort, mais il y a un dialogue où on sent qu'ils sont elle et son neveu Pavel très très proches l'un de l'autre, et puis il y a de l'amour qui circule entre eux, et elle le prend dans ses bras. Et dans ce geste d'endresse, il dit bah, « Tu vois, Dieu, il est là. Voilà. » Et le petit enfant, il reçoit ça 5 sur 5. Entre le discours mathématique et le propos tenu par sa tante, il voit bien que c'est... Et la tante lui dit bah, « Tu vois, on est très différents, mais on se rencontre et on se parle et on s'entend. »
Pourquoi c'est un chef-d'œuvre à voir absolument, quitte à y passer des heures et des heures, Louis-Marie Soler?
Des heures et des heures, finalement, pas tant que ça, hein, parce que 10 fois 54 minutes, mais c'est vrai, des heures et des heures quand même. Ben, à l'heure où, justement, passons
tout le monde passe
l'écran,
pas ses soirées à...
Oui, non, mais justement...
À regarder 5 films d'affilée, hein.
Non, mais en ce moment, on se gaffe de séries, puisqu'on peut voir
oui,
tout.
Ah oui, c'est vrai,
donc, après
ça
tout...
Ça n'est jamais qu'une série en 10 épisodes.
Voilà, c'est une série en 10 épisodes. Hein,
même une fois par mois, ça tient dans l'année.
Ça tient exactement,
ça nous donne une idée pour l'année prochaine.
Non, c'est très fort, c'est un ensemble très fort et qui révèle un formidable talent à la fois de réalisateur et de metteur en scène.
D'ailleurs, c'est ces films qui l'ont fait connaître.
En particulier, mais il n'y a pas eu que, mais il a marqué. Kieslowski, je le répète, est un grand nom du cinéma polonais, un peu comme Truffaut parti trop tôt. Hein, il aurait pu avoir une carrière un peu plus longue s'il n'avait pas été emporté par la maladie. Et il était un grand directeur d'acteurs, et en particulier avec les petits, avec les enfants. Il savait diriger les enfants. Et à propos de... Il était très, lui aussi très, très mesuré, très posé par rapport à ce que pouvait délivrer comme... le message que pouvait délivrer le décalogue. Et il disait, si je devais donner le message essentiel du décalogue, ce serait « Vivez avec égard, regardez autour de vous, prenez garde à ce que vos actions ne causent pas préjudice aux autres, ne les blessez pas ou ne leur causez pas de peine. » Voilà, c'était Kieslowski. Et en fait, dans ce premier épisode, donc « Un seul Dieu, tu adoreras », il est tellement lui aussi sûr, le père, de ce côté scientifique, et que tout est quantifiable et mesurable, en particulier la dureté de la glace. Et là, pour le coup, il aurait dû laisser parler son cœur.
Pourquoi c'est un chef-d'œuvre, Paul Dumas? Même question pour finir.
La trame de Kieslowski, dans son décalogue, dans tous les épisodes, c'est de se dire ce qui est communément admis comme étant le décalogue, les 10 lois à respecter pour se comporter comme des humains, comment se fait-il que ces 10 lois sont toujours transgressées et bafouées. Et son propos cinématographique, c'est de garder le texte du commandement et de l'appliquer à une situation très concrète d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fait un choc un peu entre les deux, un seul Dieu tu adoreras, et puis notre pratique habituelle, qui, si on l'observe pas, n'est pas une punition infligée par Dieu, mais on s'y détruit. On s'y détruit.
Eh bien, merci messieurs. Pour rappel, les 3 films de cette émission, c'est donc Joseph de Aurel, c'est le film à l'affiche, que vous pouvez aller voir, tout, chacun, mais voir entre autres mardi 13 octobre à 14h30 et 20h30, accompagné de l'un et l'autre de ces messieurs au cinéma L'ABC à Toulouse. Le deuxième qu'on vous a proposé, il n'est pas à l'affiche, Baiser volé de François Truffaut, avec entre autres donc Michael Lonsdale, pardon, et Un seul Dieu tu adoreras de Christophe Kieslowski. Un grand merci à vous. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. On l'a trouvée en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.